la revue de presse des hebdos.
C'est avec Arlette, évidemment. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Lire, écouter de la musique, regarder des séries, aller au ciné, au théâtre, pour toutes ces activités, Télérama nous guide.
Oui, certes, mais pas que. Cette semaine, par exemple, si le dossier intitulé « Les séries et la politique » explore deux séries, qui l'une, La Fièvre, brosse le portrait d'une démocratie au bord de la guerre civile, l'autre, Dans l'ombre, a la caractéristique d'avoir pour scénariste Édouard Philippe, ex-premier ministre. Dans la chronique Autrement, l'historien des idées François Doss retrace l'aventure de la mythique université de Vincennes, fruit de mai 68, qui fut le lieu d'une liberté académique extraordinaire. Et je vous assure que cette aventure va vous faire rêver, étudiants de 2024. Mais c'était trop beau. Le 27 août 1980, en pleine vacances et en pleine nuit, à l'insu de tous les regards, mais en présence d'une cinquantaine de quarts de CRS, l'université a été rasée par des bulldozers, constructions et arbres. François Doss conclut « C'est un pur acte d'exorcisme, destiné à faire table rase du passé, un enterrement sans pierre tombale, mais pas sans postérité. »
Le canard enchaîné toujours, mais cette semaine, tu as choisi de passer en revue les faits de société plus que les commentaires politiques.
Presque, mais quand même, je ne vous priverai pas d'un titre comme on les aime. Abstention des élus lépénistes lors du vote à l'Assemblée, le RN victime d'un traumatisme ukrainien. Et un article bourré de chiffres révélateurs de ce qu'on cache à la bourse qui marche au canon. Rien ne vaut une bonne guerre pour faire flamber les bourses. Vous aimez voyager ? Vous aimez l'avion ? Dans la mare, quelques infos pourraient bien vous inciter à choisir un autre mode de transport, plus écolo et surtout plus sûr. Les tests cacao des pilotes. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que les tests cacao pour les pilotes ? Eh bien, on les teste pour le cannabis, l'alcool, la cocaïne, les amphétamines et les opioïdes. Eh bien, ces tests ont été renforcés partout en Europe, mais pas en France. Il semble que les aiguilleurs du ciel sont aussi fatigués, et particulièrement ici, à Bordeaux-Mérignac, confère l'incident du 31 décembre 2022. C'est l'alerte du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Mais malgré l'offre d'une prime de 1 750 € par jour aux aiguilleurs qui accepteraient des remplacements d'urgence, les syndicats ont refusé. Et puis ne ratez pas, pour trembler davantage, l'article « Y a-t-il un copilote dans l'avion ?» Et surtout, évitez les Boeing. Après la porte, les pneus. Alors, toutes ces infos sont à trouver dans les zigzags, la rubrique les zigzags. Mais avec les JO, simplement se déplacer va relever de l'impossible, tout au moins à Paris, dans sa banlieue. L'avion est indispensable pour aller au Japon, oui. Mais allez-y avant que l'extinction de la population japonaise soit définitive. Depuis 50 ans, le Japon ne renouvelle plus les générations. On ferme 500 écoles par an et la moyenne d'âge des paysans est de 67 ans. Les Ending Centers, des centres de préparation à la mort, se multiplient. Au Ending Center, on se retrouve. On se réchauffe avant le grand froid qui vient, on regarde en silence les cerisiers en fleurs, on essaye même les cercueils. Oh, pas mal celui-ci, oh, non, trop dur.
Comment la bureaucratie prend le pouvoir ? C'est le sujet de réflexion mené dans le 1 de la semaine.
Éric Fotorino lance le débat dans son Zakouski. Parmi les cibles de la récente flambée de colère des agriculteurs, un excès de réglementation, de paperasse et de contrôle, sans cesse vilipendée, la machine bureaucratique tourne pourtant à plein régime, affermissant son emprise sur nos vies. Est-ce la fatalité ? En 1838, Balzac, déjà, analysait le phénomène. Le courant des affaires devant toujours s'expédier, il surnage un certain nombre de commis qui se sait indispensable, quoique congéable à merci, et qui veut rester en place. La bureaucratie, pouvoir gigantesque, mise en mouvement par des nains, est née ainsi. Alors à cette époque, on les appelait les ronds de cuir, nous raconte Solé. Ils portaient des manchettes en lustrine pour protéger leurs manches de chemise ou de veste du frottement répété sur la table de travail. En 2015, David Graeber, anthropologue, militant à Terre mondialiste, disparu en 2020, écrivait dans son ouvrage « Bureaucratie » L'ascension de la bureaucratie était l'ultime illustration du proverbe « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Pour Gaspard Koenig, romancier et essayiste, l'excès de normes montre que l'État se défie du citoyen. Il donne cet exemple. Comme des parents d'handicapés qui doivent démontrer tous les ans que leur enfant n'a pas de pouce. C'est pénible et humiliant. Béatrice Hibou, politiste, analyse la violence et la coercition qui accompagnent l'inflation des normes à l'ère du néolibéralisme, un phénomène qui affecte aussi bien le secteur public que le privé. David Jaiz, essayiste, lui, explique qu'il est temps de reconstruire une société de la responsabilité dans laquelle les travailleurs retrouveraient une autonomie, seul antidote à la bureaucratie, selon lui. Mais ce n'est peut-être pas ce que nous promet l'avenir si on en croit la littérature de SF. Bon nombre d'auteurs explorent aujourd'hui l'idée que la démocratie dépasse, que la bureaucratie, décidément, je répugne à dire ce mot, que la bureaucratie dépasse l'État, dépasse même le monde de l'entreprise, que le fonctionnement bureaucratique sclérosant est partout, y compris en nous. L'article du Zoom s'achève sur un constat déprimant. Dans la nouvelle bureaucratie digitale, plus besoin de fonctionnaires, de normes ou de paperasse, nous sommes tous notre propre Big Brother.
La Russie selon Poutine. Courrier international enquête dans la presse internationale sur cette Russie qui va voter dimanche prochain, le dimanche 17 mars.
Et Claire Carrard ajoute dans son édito, le maître du Kremlin vise 80% des suffrages dans ce qui s'annonce d'abord comme un plébiscite pour la poursuite de la guerre en Ukraine. L'élection est verrouillée. 6 candidats ont été requalis, parmi lesquels Boris Nadejdine, le seul ouvertement pacifiste. Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant Alexei Navalny, mort le 16 février dans une colonie pénitentiaire en Arctique, a appelé les Russes à manifester leur hostilité à Poutine en votant en masse, à la même heure, à midi pile, le 17 mars, pour submerger les bureaux de vote. Pas sûr qu'elle soit entendue, et surtout pas certain que même cela soit possible. On ne vote pas quand on veut en Russie. Oui, on doit dire, enfin, on t'assigne une heure de vote et tu dois montrer ta carte estampillée quand tu arrives ou au travail ou à l'université.
Ah, c'est contraignant.
Eh bien oui, c'est dur. Alors, pour expliquer la mentalité des Russes, du peuple russe, Courrier International a monté un dossier de 16 pages reprenant, traduisant des articles et des entretiens. Celui d'Alexei Levinson au quotidien tchèque d'Enik N, les Russes ont besoin de Poutine pour se rassurer. Dans la passionnante interview qu'il a accordée à la journaliste Petra Prochaskova, le sociologue explique ainsi la longévité politique du président russe. La description la plus précise de la relation qu'entretiennent les Russes avec leur leader est la volonté de préserver le statu quo. Il s'agit de laisser les choses en l'état. Les Russes sont convaincus que tout changement ne peut être que négatif. Ils tiennent cette idée de leurs parents, de leurs grands-parents. Pour Alexei Levinson, Poutine a su rendre à la Russie son statut de puissance et c'est cela qui prime aux yeux de ses concitoyens. Une interview d'autant plus forte qu'Alexei Levinson enseigne et vit à Moscou. C'est une voix de l'intérieur, de celle que l'on entend peu. Ce n'est pas celle d'un dissident, mais d'un esprit critique sans aucun doute. Et ces voix-là sont devenues inaudibles et trop rares depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. La suite à lire dans le dossier avec d'autres points de vue trouvés dans Novaya Gazeta Europe, le quotidien Nezavisimaya Gazeta et The Guardian. Et enfin, dans Rossiya Globanoï Politike. À l'heure actuelle, l'occidentalisme est marginalisé en Russie en raison non seulement du discrédit dans lequel est tombée la politique étrangère menée par l'Occident, mais aussi de la perte de prestige des Occidentaux dans le monde sur le plan des valeurs.
Cocoriaco, l'intelligence artificielle dope la France, c'est le titre de l'Express.
Oui, mais avant de regarder ce que l'Express pense de l'IA, j'ai remarqué un article dans la rubrique Périscope. La France et l'IVG dans la Constitution. La France vue d'ailleurs. L'Hexagone, qui aime à se considérer comme un phare, peut se targuer d'être à l'avant-garde sur ce sujet, estime la presse étrangère. Eh bien voilà, j'avais remarqué la semaine dernière que l'Express n'avait pas dit un mot de l'événement, dont acte. Alors, l'IA dans le dossier, d'abord un long entretien avec Joëlle Barrard, la jeune directrice de recherche en IA de Google DeepMind. Alors, Google DeepMind est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle appartenant à Google. L'entreprise est remarquée notamment pour son programme de jeu de Go AlphaGo, que vous connaissez peut-être, vous, les jeunes qui jouaient beaucoup. Tout au long de sa carrière, Joëlle Barrard a œuvré à mettre la technologie au service de la science et de la santé, accumulant les brevets dans la robotique chirurgicale ou l'imagerie médicale. Cela n'a donc rien d'un hasard si elle a été invitée à faire partie du comité de l'IA générative qui rendra sous peu ses recommandations au président de la République. Et puis, un article signé Maxime Recoquillier qui nous apprend que, outre ChatGPT, qui dispose désormais d'une version business, Microsoft, Google, Salesforce et en France, les compagnies telles que Mistral, Dust ou Lighton développent également des solutions professionnelles. Et si leur fiabilité n'est pas irréprochable dans la recherche de connaissances ou l'écriture de code informatique, ils ne cessent de s'améliorer. Autant de tâches que l'on pensait réservées à cette étrange faune qui hante les open espaces, les cols blancs, tu sais, ce qu'on appelait les ronds de cuir au 19e siècle. Par exemple, l'IA semble très efficace selon le géant industriel Alstom, qui utilise l'IA générative en interne. L'IA remonte rapidement à ses collaborateurs des informations auparavant contenues dans d'épais classeurs. Ceux concernant la fabrication d'un train comprennent des centaines de milliers de documents, rappelait Guillaume Rabier, en charge des solutions IT dans le groupe.
Et c'est encore un humain, Rob Bresny, qui a décrypté pour vous l'influence des planètes et a dressé votre horoscope poisson.
L'écrivain voyageur Jeff Greenwald a publié un récit de voyage au Népal, hilarant, mais très sérieux, sous le titre « À la recherche du Bouddha idéal ». Il raconte sa longue quête dans les bazars et étals du pays pour trouver une statue parfaite du Bouddha qui corresponde exactement à ses aspirations spirituelles. Cette aventure m'évoque irrésistiblement ce qui t'attend dans un avenir proche, poisson. Une intense quête d'inspiration sacrée qui pourra se concrétiser soit à travers un objet emblématique, soit par un pèlerinage vers un sanctuaire ou encore par un voyage intérieur jusqu'à la source de ta vérité et de ton amour.
Campus Bordeaux 88,1.